Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 mars 2021. Alors la bonne nouvelle, c'est que la prochaine émission, le prochain Morning Bull Live, ce sera le 21 mars et on sera le printemps. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Pour le reste, eh bien, on est simplement retombé dans nos vieux travers d'il y a 24 heures. On s'est repris la tête avec l'inflation et alors tout, mais alors absolument tout, que nous a raconté Powell mercredi soir, boum, destructeur à papier. Alors parlons-en un peu, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Alors on a eu une relativement belle journée en Europe, puisque les Européens ont salué les déclarations de Jérôme Powell, les ont pris pour argent comptant, et on était plutôt satisfaits, plutôt heureux de ce qui se passait, donc relativement bon comportement des marchés européens hier, et puis en fin de journée, quand les Européens sont rentrés à la maison, ce qui arrive souvent, et les Américains se sont dit « Bon, c'est bon, ils sont partis, là, alors on y va !» Bam ! Alors, paf, le 10 ans, il est remonté. Les rendements du 10 ans sont remontés, donc tout d'un coup, on s'est retrouvé à 1,70, et on s'est dit « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer ?» Et du coup, eh bien, le marché s'est fait démonter, et on s'est repris les mêmes histoires, mais les mêmes. Ce qui est vraiment phénoménal dans ce qui vient de se passer, c'est qu'on a l'impression que, mais vraiment, on n'a rien écouté et rien appris. Ou alors, simplement, on part du principe que Jerome Powell est en train de nous raconter que des conneries, il n'a aucune idée où il va, et nous, dans la finance, on sait nettement mieux. Alors, on s'est dit quoi? On s'est dit, le 10 ans remonte, oui, d'accord, c'est inflationniste, à terme, c'est un signal d'inflation. Jerome Powell nous a dit qu'on allait avoir un recovery rapide jusqu'à la fin de l'année, ce qui allait faire spiker finalement l'inflation à très court terme, et qu'ensuite, ça allait se calmer, et qu'on allait revenir à peu près à la normale, et ensuite construire gentiment un recovery économique avec une inflation sous contrôle, et ensuite, éventuellement à l'horizon 2023, on pourrait commencer à parler de hausse des taux. C'est ce qu'il a dit mercredi soir. Je n'invente strictement rien. Mais non, mais nous on s'est dit, ouais, mais l'inflation elle va démarrer, et puis après derrière, on va devoir monter les taux super vite, et puis ensuite on va se faire défoncer la tête sur les marchés. Donc du coup, le marché s'est pété la figure, on s'est dit, oui, il faut faire du value stock, alors même certains value stocks sont tombés quand même, et puis alors en plus, si l'inflation elle revient, ça va être l'horreur pour la techno, donc la techno s'est fait massacrer. Le Nasdaq, il a perdu 3% encore et des poussières hier, donc Don Schulder, ça veut plus rien dire, parce que ça veut dire que vous avez une épaule, une tête, puis un gars qui a trois épaules derrière. Donc ça veut rien dire, mais en tout cas techniquement c'est pas super euphorique là tout de suite sur le Nasdaq, évidemment avec une journée comme ça. Et puis quand on regarde le S&P 500, ben c'est à peu près pareil, on a aussi une sale tronche sur le S&P qui pourrait corriger, revenir chercher sa moyenne mobile, en tout cas dans un premier temps celle des 50 jours, ce qui suffirait à nous foutre largement la trouille si ça devait se produire cet après-midi. Donc voilà, un petit peu de tension à court terme, toujours avec les mêmes arguments qu'on a avancé ces derniers temps, hein, qu'on avançait déjà encore mardi dernier, juste avant qu'on disait que oui, quand il y aura le meeting de la Fed, ça va tout changer. Ça a effectivement tout changé pendant à peu près 24 heures. On peut parler du 10 ans aussi. Le 10 ans, c'est fait. Les obligations du Trésor américain du 10 ans se sont fait taper dessus, donc forcément, ça fait monter le rendement. Le rendement est monté à 1,70 et on s'est dit « Oh mon Dieu, on arrive sur les 1,70, qu'est-ce qui va se passer ?» Bah, on va aller à 1,97. En tout cas, comme c'est prévu, on va y aller. On va aller chercher psychologiquement, c'est 1,97% techniquement, mais on va aller faire les deux juste pour faire « Ding, 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 ding !» On a touché les 2%. Et donc, du coup, les marchés sont stressés et la techno en prend plein les dents derrière. Comme on le voit d'ailleurs sur notre ami, notre cher Apple, je ne comprends toujours pas comment hier une boîte comme Apple peut perdre 3,3% sous prétexte que oui, si l'inflation arrive, on peut plus gagner d'argent. Oui, bien sûr, évidemment, parce qu'on va tous arrêter d'acheter des iPhones, on va tous arrêter d'acheter des Mac, et puis on va tous arrêter, on va tous retourner simplement chez Nokia pour acheter des 7210. Et si on retourne chez Nokia, ce sera hyper positif pour les gens de Wall Street bête, puisqu'ils sont chauds bouillants sur Nokia depuis un bon moment. Non, je plaisante, mais aujourd'hui, c'est quand même juste hallucinant de voir ce qui est en train de se passer sur une boîte qui est absolument fantastique comme Apple, sous prétexte que l'inflation arrive. Bref, pour faire simple, on est revenu exactement où on était il y a 48 heures, en tout cas mentalement. Ce qu'a dit Powell, c'est mis de côté, on ne veut plus entendre parler, de toute façon, il ment, c'est pas un problème. Et puis, on est revenu exactement au même stade, on a exactement les mêmes flips. Alors, essayons de regarder un petit peu devant. Alors, un devant, on a quoi? Eh ben, on a un espèce de truc politique qui est en train de se produire. tout doucement, on en parle peu encore, mais quand même, ça vient gentiment. On a Monsieur Biden qui commence à se chauffer, là. Vous avez vu, il était au fitness, il a fait les bras, il a fait les pecs. Là, il est chaud bouillant, il s'en prend à tout le monde, hein. Donc, il est fâché depuis qu'il est là avec l'Iran. Il s'est fâché l'autre jour avec la Corée du Nord. Hier, il s'est fâché avec Poutine. Se fâcher avec Poutine, c'est toujours une hyper bonne idée parce que le mec, il est assez coulant comme gars, il est assez sympa. Et puis, maintenant, c'est la Chine. Donc, il y a discussion à haut niveau avec la Chine parce qu'il est pas d'accord. Il menace que si la Chine continue à acheter du pétrole à l'Iran, il va les sanctionner et les Chinois et l'Iran. Ça va être super. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on sait que les démocrates, les présidents démocrates dans l'histoire, ils aiment la guerre. Ils veulent en avoir une, en tout cas à eux. Donc, Biden, il est parti chaud bouillant direct d'entrée en se disant, bah tiens, moi je suis là pour 4 ans, vu mon âge, peut-être ça durera moins de 4 ans, alors qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais vite me précipiter pour trouver quelqu'un à aller me mettre en guerre avec. Alors le problème, c'est qu'il a choisi que des mecs aux armes nucléaires, à peu de choses près, donc c'est un tout petit peu embêtant quand même. Puis c'est pas des tout petits trucs, hein. Non, c'est la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Donc voilà, c'est un peu différent, mais on attend de voir ce qui va se passer. Donc du coup, ben, j'en profite pour me dire, peut-être qu'il faut à nouveau regarder encore un peu plus le secteur de l'armement comme idée du moment. Donc en attendant qu'il envahisse le Canada, ce qu'on peut déjà regarder comme titre, il y a trois titres phares qu'on peut regarder régulièrement, c'est Lockheed Martin, General Dynamics et Raytheon, qui sont un peu les trois papes de l'armement, du gros truc vraiment aux États-Unis, où on peut investir dans cette thématique. Alors comme on le voit sur les charts qui défilent successivement sur les trois titres, eh bien on voit clairement que ici il y a déjà un mouvement qui a été fait sur certaines. Ça c'est pas forcément à cause de la guerre, mais c'est plutôt à cause du côté value stock. Hein, on est revenu dessus. Alors, c'est pas des investissements green, ESG, ISR, clair et net. Évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, c'est toujours des titres quand on dit, bah, on va faire de la value. C'est des boîtes qui fonctionnent toujours plus ou moins bien. Quand ils chopent des contrats, c'est pas 100 000 $, c'est des gros morceaux. Et puis, quelque part, même si c'est pas gentil, eh ben, tous les gouvernements, ils continuent à mettre des budgets militaires absolument hallucinants, surtout dans les périodes de tension comme aujourd'hui. Sans oublier le fait que si on parle technologie et avenir de la technologie, toute la technologie vient de l'armement. Donc, quelque part, ça peut être un truc à jouer. Donc, trois noms, je vous l'ai dit, Lockheed, General Dynamics et Raytheon. Et puis, autrement, il y a deux trackers qui sont pas trop mal, c'est le ITA et le XAR, qui vous permettront de jouer cette thématique. Alors, je dis pas qu'il faut se précipiter dedans, mais vu les tensions qu'il est en train de nous préparer, l'autre, on sait pas comment ça peut dégénérer. Et puis, suivant comment ça peut dégénérer, à ce moment-là, il risque d'y avoir encore un petit coup d'intérêt sur ce secteur-là. Puis, mis à part ça, ça reste des boîtes qui, de toute façon, fonctionnent très bien et qui ont des très bons résultats. Pas toujours une très bonne presse, mais par contre, qui fonctionnent très bien et qui rentrent, par contre, moins bien dans un portefeuille ESG. La question du jour aujourd'hui. Alors, j'ai acheté des Invitae lundi qui se cassent la gueule, qui dégringolent. Compte tenu des derniers développements sur le Nasdaq, liquiderais-tu la position avec une perte de 8% ou les conserverais-tu? Sinon, où est-ce que tu placerais le stop-loss? Alors, la problématique, c'est que si on regarde les chiffres, Invitae, on en a parlé l'autre jour dans une émission précédente, ce qu'il faut retenir, c'est une boîte qui fait de la génétique, qui fait des tests génétiques, avec le retour à la liberté, pas en France, hein, mais aux États-Unis par exemple, les gens vont gentiment retourner chez le médecin physiquement, ils vont devoir faire de plus en plus de tests, et normalement Invitae, va en profiter et devrait pouvoir repartir gentiment. C'est une boîte qui fonctionne, c'est une boîte qui a des réels prospects, elle fait partie des top 10 de Cathie Wood dans le ARK Invest. Par contre, effectivement, il y a de la concurrence au niveau des diagnostics. Donc, par rapport à ça, ça peut toujours être compliqué. Après, c'est un titre qui est extrêmement volatile. On estime qu'il est à peu près deux fois plus volatile que le S&P 500, ce qui n'est pas peu dire. Donc, il y a des risques, effectivement, d'avoir des mouvements assez importants, comme on peut le voir sur le graphique. Et c'est toujours très, très difficile de se positionner là-dedans. C'est un titre qui a un réel potentiel de hausse, si on en croit les analystes à droite et à gauche. Les targets sont facilement en direction de 60, 70, 80 dollars. Cathie Wood s'attend encore à bien, bien plus que ça. Elle est hyper brûlante dessus, hyper positive. Donc, du coup, eh bien, c'est un titre qui a l'air pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est volatile. Alors, quand vous rentrez dans ce genre de titre, c'est toujours difficile de mettre un stop loss à 2-3% en dessous parce que 2-3%, c'est fait comme ça. On l'a vu hier et avant-hier. Donc, ça reste des titres qui bougent beaucoup. En gros, pour faire simple, techniquement, c'est difficile de prendre des positions là-dessus, mais quand je regarde le graphique, je me dis que j'essaierai de dégarder jusqu'à en dessous de 35, puis je mettrai un stop loss à 34,90 pour me dire si jamais vraiment ça casse. Si elle va là, elle va redescendre à 30-29 $. Et à ce moment-là, on pourra peut-être essayer de la rejouer à la hausse. Mais là, tout de suite, j'essaierai quand même de serrer les fesses dépendant de l'exposition globale du portefeuille, bien sûr. Mais c'est toujours difficile de répondre à des questions comme ça. Où est-ce que je vendrais? Est-ce que je me couperais? Est-ce que je prendrais la perte? Mais globalement, j'ai l'impression que il y a quand même un potentiel sur cette action et ça peut être très volatile. Donc il faut se préparer, si on veut bénéficier de la performance derrière, à pas trouver toujours le bon niveau. Néanmoins, stop loss en dessous des 35 à court terme, mais si ça va beaucoup plus bas que 35 après, je pense pas qu'il faut non plus l'oublier. Et le moment où la tech redeviendra in the mood, il faudra aussi la garder sur la liste pour la reprendre et pour se refaire si on a une perte de 10, 15 ou 15% sur cette position-là. Deuxième question du jour, on me demande après qu'est-ce que je pense d'Adobe. Alors j'ai quelqu'un qui a acheté des Adobe récemment à 430, ce fera. Il y a les résultats qui seront publiés la semaine prochaine, le 23 mars pour être précis. Qu'est-ce que j'en pense? Alors d'abord, c'est toujours, là aussi c'est sympa parce que vous achetez quelque chose, vous faites quelque chose, après vous venez me dire qu'est-ce que t'en penses. Alors écoutez, Adobe c'est une super boîte, c'est vraiment une super boîte quand on regarde les targets qui sont... prévu, calculé et anticipé par les star analystes, c'est grosso modo $560, donc un bon bout plus haut que là. Elle a toujours une historique d'être assez bonne au niveau de la publication des résultats, elle surprend souvent à la hausse, donc ça c'est des choses qui sont plutôt encourageantes. D'un point de vue purement technique, c'est pas beau du tout. On est en train de tester les supports sur les niveaux des 430. On est passé pas loin en dessous de la moyenne mobile. Et puis la tendance de fond est en train de se dessiner à la baisse. D'ailleurs, on a la moyenne mobile des 50 jours qui part en direction des 200, ce qui veut dire qu'on est en train de faire une dead cross. En gros, une signal de tendance baissière à moyen terme. Donc il faut un peu se méfier. Ça, c'est l'aspect technique. L'aspect fondamental, eh bien, je vous l'ai dit, c'est plutôt bullish et pour utiliser leurs produits régulièrement. En faisant ces vidéos, eh bien, je dis que je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça fonctionne plutôt bien. Alors, le système d'abonnement, la boîte cartonne et il y a beaucoup de positivisme. Par contre, ça peut être effectivement volatile parce qu'en plus, c'est une tech, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc, difficile. Après, jouer les résultats, dans cet environnement-là aussi, c'est très compliqué, puisque bah, c'est pile ou face. Hein. On l'a vu, ça peut être des super bons résultats, mais si l'état d'esprit n'est pas hyper positif en faveur de la tech, comme c'est le cas aujourd'hui, il peut y avoir des prises de profit. Maintenant, de nouveau, si je vous dis vendez-les parce que je la sens pas là tout de suite, puis qu'elle prend 14% ou 28% sur les résultats la semaine prochaine, c'est toujours un peu délicat. Donc j'ai pas de réponse claire à dire. Ça c'est mon boulot de commentateur télé. J'ai pas vraiment de recommandations à faire. Simplement, il faut tenir compte du fait que fondamentalement, ça vaut plus que ça. Maintenant, dans l'environnement, au niveau du momentum, ça pourrait être un petit peu difficile. Néanmoins, comme à chaque fois, au résultat, c'est pile ou face. Vous voyez comme je fais super bien la météo. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette semaine. Donc, je vous encourage pour la 5e fois de la semaine à liker cette vidéo. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. Et puis, je vous retrouve lundi matin. Bon pied, bon oeil, passez un excellent week-end, ça fera du bien de se couper un peu de tout ça après une semaine un petit peu décousue. Je me réjouis déjà de vous revoir dans quelques jours. Profitez bien, bon week-end, bye bye.